des favoris qui assurent, des outsiders qui déçoivent et peut-être des Français en huitième de finale. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live dans cette US Open à la fin du deuxième tour, sachant qu'il y a des matchs déjà du troisième tour qui ont lieu. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Vous me connaissez déjà, Eli, fondateur de Tennis Metrics. Salut Eli, comment ça va?
Salut Cons, salut à tout le monde, ça va du feu de Dieu, on vit une putain de semaine avec des outsiders qui se barrent, des problèmes gastriques, des comédias dell'arte, moi j'adore, moi je kiffe, je sais pas toi mais c'est cool.
C'est clair, on prend beaucoup beaucoup de plaisir. Et juste un petit mot, donc Eli qui est fondateur de l'application Tennis Metrics qui est gratuite, tous les liens sont en description, donc ça permet vraiment d'affûter tes analyses tennis. Pour le moment c'est surtout sur le circuit ATP. Donc Eli, voilà, il envoie des matchs passer tous les jours, il les analyse pour essayer de te dire quelle est la meilleure opportunité que tu peux avoir. Bien évidemment, parier, c'est une activité responsable, donc n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, mais je t'invite à aller jeter un coup d'œil, ça permet un peu de confronter ton analyse à celle d'analyste professionnel, justement pour voir si tu es dans le vrai ou pas, et à la fin, tu peux voir s'ils avaient raison ou non, sachant que tout est totalement gratuit. Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. Je ne sais pas toi si Eli, tu veux rajouter un mot sur cette belle application.
Déjà, tu peux, faut pas parier l'argent que tu n'as pas. Après, c'est toujours mieux de parier l'argent des autres. Hein. Ça, c'est petite remarque en passant. c'est qu'en effet, tout simplement, on analyse tous les matchs ATP, pour l'instant, bientôt WTA. Et il y a un petit truc à souligner, c'est que les gens utilisent surtout les analyses qu'on fait, avec notamment Florence Serra et Marcos Betting. Les analyses humaines, mais il y a tout un tas d'autres statistiques sur l'app, notamment sur les breaks, sur les tie breaks, sur les aces. On a une fonctionnalité qui t'envoie les notifications dès que les cotes sortent chez Pinnacle, qui après les cotes ensuite arrivent dans les bookmakers, chez les bookmakers français. Donc c'est pas mal pour choper aussi des cotes en début de marché. Voilà, il y a tout un tas de choses en dehors de l'analyse humaine qu'on fait. Et qui est à souligner parce que je pense qu'elle est un petit peu encore sous-estimée. Voilà.
C'est clair. Foncez, téléchargez l'application et après, jugez par vous-même ce qu'il en est ou pas. Et nous, on va parler de cette US Open, ce qui s'est passé dans les deuxièmes tours après le jingle. Donc actuellement, Tommy Paul contre Davidovich Fokina, où pour le moment, l'Américain roule sur l'Espagnol et Mourova qui sert pour le match contre Townsend. Et troisième set entre Shmedlova et Wang. Donc on va suivre ça de très très près. Mais avant tout, Eli, voilà, il y a les deuxièmes tours qui sont passés, il y a eu quelques surprises. J'ai envie de te lancer, toi, sur ce qui t'a marqué. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ces seconds tours? Rapidement, après on rentrera dans le détail sur les différentes sections. Mais voilà, si tu avais des petites pastilles comme ça à soulever, qu'est-ce que ça serait?
J'allais te répondre et j'ai vu le score de Paul Fokina, 6-0, il y a encore une gastro, enfin, il y a des trucs invraisemblables. Ça me fait enchaîner avec ce qui s'est passé hier avec Murray, que j'ai trouvé complètement ahuri, ce qui me fait encore penser que Murray peut faire des trucs très bizarres en grand chelem. Là, quand je vois 6-1, 6-0 sur Davidovich, bon, on va parler d'hier. Donc, bien sûr, le gros fait marquant pour moi et j'espère pour beaucoup de monde, c'est Big John qui s'en va sur un tie-break d'un cinquième set décisif qui est vachement caractéristique du mec. Alors, c'est con qu'il le perde, hein, bien sûr, surtout contre Meux, quoi, qui progresse. Hein, faut pas le sous-estimer maintenant, mais voilà, tu perds pas contre Djokovic, quoi, tu vois. J'ai l'impression dans son en revoir qu'il était un petit peu dégoûté par ça. Mais c'est la vie. C'est pour moi un des gros faits marquants d'un mec qui me touche, qui a un grand cœur, ça se sent, et qui s'en va. Qui n'était pas forcément très plaisant à regarder, hein, faut appeler un chat un chat. Mais voilà, premier gros fait marquant. Le deuxième, moi je parle peut-être un peu d'un point de vue parieur, c'est Urkacz qui choke encore en grand chelem. Voilà, rien à dire. On commence à vraiment être habitué, alors que il avait fait deux sacrés Masters 1000, des matchs super dans les Masters 1000 juste avant. Rude, on va en parler un peu plus tard si je ne me trompe pas. Et bien sûr, la Bonds qui revient sur sa patte, sa couverture de terrain. Et son intelligence de jeu, il peut aussi, voilà, c'est pas qu'un baseliner, il allait finir des points au filet et prendre quand il fallait les prendre. Contre un mec qui envoie du lourd avec en mode ça passe ou ça casse, ben faut le faire quand même. Je sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà joué ce genre de mec, mais c'est chiant. Hein. Donc bien joué, voilà mes points très marquants. Big John, Urkach et la Bonds.
Ah bah clairement, Big John, je te rejoins totalement. Et c'est symbolique de finir sur un super tie-break chez lui contre un Américain. Voilà, il nous aura fait peut-être pas vibrer, mais en tout cas, on aura passé des longues journées devant ces matchs à Wimbledon. Après, le virus, tu en as parlé en introduction, qui traîne. Je ne sais pas si Urkach était diminué ou pas, mais on sentait un peu suffoqué. C'était pas très, très rassurant. Il y a eu Banks, il y a eu Chim. Voilà, mieux vaut rester à l'intérieur. Pour ne pas attraper des microbes, là, parce que ça a l'air d'aller très, très vite. Et quand même, la belle victoire de Wozniacki sur Vitova. Je suis assez impressionné. La Danoise qui revient, voilà, elle a été maman et son état physique, enfin, je la trouve vachement, vachement, vachement forte pour une reprise comme ça. Et se taper avec Vitova, franchement, chapeau à elle. Donc un très, très beau fait marquant. J'espère qu'elle a un petit folle. Comment ? Ouais, la Svito. C'est vrai, ouais, ça donne une inspiration. C'est vieux qui font de la résistance.
On va faire une stat sur les femmes qui reviennent après avoir accouché. Est-ce qu'elles surperforment ou sous-performent en moyenne? Tiens, c'est intéressant ça, je me le note.
Je pense que ouais, tu aurais quelque chose à faire là par rapport à tes débuts de tennis métrique, ça va être la WTA. Et nous, on va pouvoir passer donc à un des premiers dossiers. On va avoir quelques dossiers ce soir. Savoir si on va avoir un Français en 8e de finale. Si oui, lequel? Ou est-ce qu'ils vont faire chou blanc? Ensuite, Tsitsipas et Ruud, donc, qui ont déçu, même si c'était attendu. Avoir ton avis, Ellie, pourquoi, qu'est-ce qui cloche en ce moment? Et enfin, quand même, ah, Ellie nous a quittés. Et ensuite, parler un petit peu des favoris et savoir qui est le favori qui a fait la plus forte impression, savoir si c'est plutôt Medvedev, Djokovic, Sinner, Alcaraz, même si voilà, je pense que certains d'entre vous ont déjà leur idée en tête. Donc, on va commencer tout de suite, le temps que Kelly revienne au premier petit dossier sur les Français en huitième de finale. Savoir lequel a le plus ses chances de rallier les huitièmes, s'il y en a bien un qui peut le faire ou non, sachant que ce n'est pas gagné. On a quand même Manarino contre Tiafoe, Bonzi contre Stricker, Rinderknecht contre Rublev et chez les dames, Burel contre Sabalenka. Donc, qui ont impressionné à différents niveaux, on va dire, par rapport à leurs anciennes confrontations. Ah, on retrouve Ellie. Te revoilà.
Allô?
Il est de retour.
J'étais
justement en train de lancer un petit peu nos talkers sur le dossier des Français. Donc, je rappelais qu'il y a Manarino, Bonzi, Rinderknecht et Burel chez les dames. Donc, 4 Français engagés au troisième tour pour potentiellement se qualifier en 8e. La question que j'ai envie de te demander est toute simple. Lequel a le plus ses chances, enfin, lequel ou laquelle a le plus ses chances d'arriver en 8e de finale?
Alors, comme tu l'as dit en préambule, nous, pour l'instant, on fait que l'ATP. Donc, j'ai beaucoup plus de compétences, de connaissances là-dessus. Donc, je vais me cantonner aux trois hommes. Réponse assez claire pour moi. C'est la Bonds. Pourquoi? Parce que je trouve que son match-up, c'est-à-dire la confrontation qu'il y a entre les deux profils de joueurs, à savoir Stryker et la Bonds, est assez bien et pas mal, quoi, et bien dans le sens de la Bonds, parce qu'il vient de se taper deux mecs. Bon serveur agressif dans la personne de Quentin Alice et de Eubanks. Donc voilà, le cerveau, il s'adapte quand même. Hein. Quand tu joues un mec qui envoie des parpaings, derrière, t'es plus, voilà, tes réflexes, ils se sont améliorés, les conditions du court et tout. Donc il arrive contre, encore une fois, un mec profil serveur agressif. Petite différence, il est gaucher, mais différence qui va encore dans le sens du français. Parce qu'il y a une stat quand même qui n'est pas dégueulasse, c'est que la Bonds, il a gagné 52 fois contre des gauchers dans sa carrière pour 19 défaites. Donc, on peut se dire, voilà, ça dépend qui t'a joué. Si tu as beaucoup perdu, c'est sûr que si tu as joué 80% de tes matchs sur les gauchers contre Nadal, bon, ben voilà, c'est relativisé. Mais sur les mecs qu'il a battus, c'est pas des branquignoles non plus, quoi. Tu vois, je suis allé un peu plus profond dans la stat. Donc, ça, c'est encore un truc en plus. C'est vraiment, voilà, mon associé sur Tennis Metrics, Olivier, c'est un gaucher. On s'est entraîné 1000 fois ensemble. Et tu peux voir voilà, s'il y a des schémas de jeu, des patterns, des appétences contre ce style de jeu. Donc, ça fait un truc en plus. En plus de ça, voilà, bah, pour parler vraiment du match-up, c'est-à-dire que c'est un mec qui couvre bien le terrain, qui en plus te fait dire que ok, je contre bien, je suis solide du fond. Mais derrière, si tu me fais une balle un peu neutre, je suis capable également de monter et d'aller finir. C'est-à-dire que l'attaquant, il se retrouve dans une position où il n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Et ça, ça fout une petite pression. Et petit à petit, ça peut grappiller quelques points. Et surtout, ce qui rassure, c'est que la Bonds, dans les points importants face à Eubanks, on l'a vu par exemple dans le premier tie-break, où il va chercher son premier tie-break sur un passing long de la ligne gagnant. Voilà, ça rassure. Il est là sans pression parce qu'il arrive, encore une fois, il se bat pour revenir à son niveau. Il pensait peut-être pas arriver jusque-là. Et là, il n'est pas forcément favori. Il n'est pas favori au niveau des cotes, mais au niveau surtout mental, quoi. Et je pense que les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire quelque chose. Et c'est pour moi celui qui a le plus de chances, voilà, de passer en huitième.
Je suis assez en phase avec toi par rapport aux autres affiches. Et comment t'expliques ce regain de forme de la Bonds sur ce tournoi, sachant que depuis Marseille, c'était très compliqué, 14 matchs pour seulement 4 victoires. Et là, tout d'un coup, il arrive à enchaîner Quentin Alice, ce Banks, même s'il y a cette histoire de virus, mais bon, il est quand même là. Il a potentiellement une chance d'aller en huitième de finale. Donc toi qui as suivi un petit peu le français, quel est le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, faut savoir que la Bonds, il y a encore pas longtemps, c'était un très bon joueur de challenger, qu'il a eu une phase de compression, de décompression où il fallait qu'il s'adapte au niveau du circuit du tour, quoi. Après, il s'est adapté et il a fait encore, donne l'impression d'avoir commencé un très bon début de saison. Et du coup, d'avoir joué beaucoup, est-ce que ce n'est pas trop vite, trop tôt finalement? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. D'ailleurs, bien sûr, il y a eu des blessures. Il y a un style de jeu quand même où il a fait ses bons résultats en indoor. Il commençait à accrocher de très bons mecs. Et derrière, il y a la saison sur terre qui commence. Alors, son profil de jeu s'adapte très bien. Mais je pense qu'il a quand même un peu plus de qualité sur dur. Donc il y a ça aussi, mais c'est surtout en fait, c'est quand tu vois que les mecs pour en arriver là, on voit avec Jacob Mensik, on voit avec une exception, c'est Drogué, même si il répond, enfin il a une progression également, mais il faut grappiller, tu vois, des degrés de confiance petit à petit dans chaque match, chaque tournoi, des renversements de situation. Et elle peut se péter en deux matchs, quoi, la confiance, voire en un. Et c'est à mon avis ce qui s'est passé sur Bonzi. Derrière, c'est du travail, c'est aller, on y retourne en mode besogneux. Et tu te demandes pourquoi, quoi. Putain, pourtant, mes couilles partent pareil, je comprends pas. Mais t'as une consolidation de ta blessure, tu as un peu plus peur d'envoyer comme avant. Une fois que tu peux envoyer, ben, les mecs, eux, ils ont du temps de jeu dans les pattes. Enfin, voilà, le truc classique. Pour moi, il n'y a pas de truc exceptionnel sur la bande. Et puis après, tu arrives à un tournoi, tu ne sais pas pourquoi tu te sens bien. Tu retournes bien contre Alice, ça passe en plus en 3-7. Et puis voilà, il y a des matchs qui te lancent comme ça, qui te relancent. On en parlait l'autre jour avec un pote, c'est Rublev, le premier tournoi qu'il gagne, il est lucky loser. Il perd au qualif et après il gagne, c'était à UMAG. Et derrière, il s'ensuit de très bonnes paires sur toute la saison, puis après, voilà, les années qui suivent et le Rublev qu'on connaît. Il y a des déclics comme ça qui ne sont pas pour moi du hasard, ce sont que des catalyseurs, si tu veux, mais qui sont là pour valider quand même un travail quand même énorme et qui fait que, OK, maintenant, on peut y aller. Et là, la Bonds, ben, il se tape Alice. Derrière, il se tape Eubanks, qui est un peu malade, ou en tout cas, pour moi, qui a été surestimé par rapport à Wimbledon, qui était un peu exceptionnel pour lui. Donc, il peut aller le chercher et il va le chercher. Ben, ça lui redonne encore, hein, tu vois. C'est des circonstances qui sont folles et qui fait que ben, là, il a carrément un coup à jouer. Et pour moi, après, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, tu tapes une grosse défaite. Regarde Medvedev qui perd contre Nadal à l'Open d'Australie. Regarde ce que ça lui fait. Enfin, voilà, tu as des joueurs un peu émotion comme ça, tu vois. Ça leur fait mal. Tu en as, ils s'en branlent. Ils continuent. C'est en mode un peu robot, machine. Je pense que la Bonds, il est plutôt dans le côté émotif, quoi.
Et un autre joueur français qui capitalise sur sa forme un petit peu du moment, d'ailleurs, qui était tête de série, c'est Manarino, qui a bien suggéré d'ailleurs ce statut, sachant qu'il sort Watanuki et Marochan en 4. On sait que c'est un joueur voilà, avec un profil atypique, gaucher, des frappes très tendues, très basses. Là, il va jouer Frances Tiafoe, qui défend sa demi-finale de l'an dernier, un partout entre les deux hommes. Mais bon, ça remonte quand même à 2018 et la victoire de Manarino en 2016. Donc c'était deux joueurs totalement différents. Tiafoe, lui, qui n'a pas vraiment été challengé contre Chen et Hofner. Est-ce que tu vois la patte de gaucher un petit peu perturber le rythme de l'Américain, ou au contraire, Tiafoe, chez lui, devant son public, va être galvanisé, il va retrouver un peu ce momentum qu'il avait il y a un an et il va faire la différence assez facilement?
Ouais, je vois bien sûr un Français qui va le faire chier. Excusez-moi l'expression, mais... Il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a Manarino qui fait une des plus belles saisons de sa carrière à 35 ans, alors qu'il avait annoncé, en tout cas entre les lignes, que ça allait commencer à être un petit peu chaud physiquement. Au final, ben, le mec, il envoie. C'est un des mecs qui a fait le plus de matchs. Donc franchement, chapeau. Donc il est en forme, en surforme. Il arrive au sommet de son tennis, dans le sens où à 35 ans, l'expérience du jeu, parce que c'est un mec qui base son jeu sur l'intelligence, quoi, surtout, et c'est, comme tu l'as dit, un style atypique, eh ben, elle est à son summum. Ensuite, il fait un très bon Cincinnati avant c'était Toronto ou Cincinnati, je crois que c'était Cincinnati, avant l'US Open. Normalement, il était vainqueur de Winston-Salem l'année dernière. Là, il décide de ne pas le faire pour se reposer.
Soit très intelligent d'ailleurs.
Bah, carrément. Il va, après, parce qu'en plus, il était tête de série. Hein, c'est un détail qu'il ne faut pas enlever. Bon, tu es tête de série, tu tapes quand même Watanuki et
Marochan et Gasquet.
Donc, voilà. Bon. Mais, voilà. Et ça m'amène à un autre paramètre, c'est qu'il bat des mecs dangereux avec la manière pas forcément tennistique, mais la manière mentale. Parce qu'il a raconté hein, en interview que Watanuki, c'était chaud du slip, dans le sens où le mec, il a joué sa carte, le Watanuki, il a agressé sans cesse, tu vois, il a pris à la gorge, et c'était assez chaud. Il a tenu, il passe en 4-7, pareil pour Marochan, qui n'a rien à perdre, qui a une très bonne main, qui fait jouer... qui varie également beaucoup avant-arrière, enfin, c'est, avec un bon coup droit, c'était également super, super piégeux. Et la façon dont il s'en sort, en fait, me fait dire que, voilà, tout ça fait que le mec, il est au top de son top. En face, on a un Tiafoe qui, lui, à l'inverse, ne joue pas son niveau de top 10. De par ses résultats, hein, déjà, si on en juge rien que par ça, sa saison, elle n'est pas digne d'un top 10. Donc, tu as un Français qui arrive à 33, 34e mondial et à un surforme qui est dans les conditions qu'il adore, face à un mec qui ne joue pas son classement et qui est chez lui avec un peu de pression parce qu'il adore ce tournoi et il défend une demi-finale. Tu vois, ça doit quand même un peu foutre la pression. Et tu vois, donc tu te dis, bon, pourquoi pas. Alors, il y a un truc qui fout peut-être un peu plus les boules, c'est que Manarino, en général… Quand il est arrivé dans ce genre de tournoi contre des gros mecs, eh ben, il les a accrochés, mais il n'est pas passé, tu vois. On peut penser à Federer, d'ailleurs, à Wimbledon. Federer, c'est à part, hein, on est d'accord. Mais il aurait pu gagner contre Federer, par exemple. Et voilà, donc hein, j'avais retracé un peu les matchs qu'il avait fait contre, quand il arrive contre des tops, voilà. Mais là, il arrive peut-être dans un moment de sa carrière, une sorte de maturité et aussi de relâchement qui fait que ça peut être peut-être un tantinet différent. Alors personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'il va vraiment l'embêter et aller perdre en 4 ou 5 sets. Mais l'embêter plus que s'il avait joué il y a un an, quoi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais putain, j'ai envie qu'il... C'est possible, quoi.
C'est possible, surtout vu la forme de Tiafoe, mais je pense que ça finira par céder. Ouais, 4-7, ça peut faire un gros, gros match avec cet Américain survolté devant son public. En tout cas, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que celui qui a le moins de chances de passer, c'est Rinderknecht contre Rublev qui sort mon fils, très appliqué, le Russe qui avait un tableau extrêmement compliqué à premier abord après le tirage au sort et qui finalement va peut-être aller pouvoir jouer un nouveau quart de finale et essayer de péter son plafond de verre en majeur. Rinder quand même qui a gagné le challenger de Zug il y a quelques semaines, il se fait Schwartzman et il profite de l'abandon de Berrettini même s'il dominait l'Italien avec cette vilaine blessure avec les cris qui rappelaient un peu ceux d'Alexander Zverev il y a quelques mois. Donc c'était assez douloureux pour lui et on sait que son corps est assez fragile pour l'Italien et Rublev qui a été extrêmement solide contre la Monf et Gaël qui passe peut-être un peu à côté au service aussi quand même, 13 doubles fautes, seulement 49% de première balle, c'est insuffisant contre un joueur constant, régulier comme Rublev. Je ne sais pas si tu vois Rinderknecht ne serait-ce que prendre un set à Rublev.
Oui, parce qu'il a le profil de joueur, voilà, très bon serveur, puissant, il est dans ses conditions, Arthur. Hein. Faut pas oublier qu'il a quand même fait ses armes de joueur de tennis. Alors bon, un joueur de tennis, ça prend son ADN déjà jeune, enfin très très jeune, mais en tout cas fait ses armes juste avant le circuit pro en université sur ce style de terrain, sur ce style d'ambiance. Il s'y sent bien. Et ça se voit parce que péter Schwartzman en 3-7 comme ça, alors que Schwartzman en grand chelem en général, même pas très en forme dans une saison en grand chelem, c'est toujours
c'est chiant très joueur.
Voilà, c'est chiant. Donc ça prouve quelque chose de l'avoir battu en 3-7 sec. La façon dont il a battu aussi Berrett, alors enfin, je parle surtout du premier set, il était au-dessus hein, tout simplement. Il a mis la pression quand il fallait. Il est allé, il était tout simplement plus fort dans le premier set. Donc oui, il peut, bien sûr, il peut aller embêter un Rublev qui, comme tu l'as dit, il faut qu'il aille péter un plafond de verre, Rublev. Donc c'est pas la valeur sûre en grand chelem. C'est un mec qui rumine souvent. Et il l'a fait un peu contre mon fils. Donc bien sûr qu'il peut aller chercher un set. Bien sûr qu'il peut aller chercher un set. voire plus hein, parce qu'encore une fois cette situation où tu te sens bien, ton tennis est là et t'as rien à perdre, ben on l'a vu avec Gojo notamment, tu vois, c'est à dire que un mec comme Meligeni Alves là, le Brésilien, il fait un super tournoi, il arrive contre Baez, le mec il a des qualités de baseliner, c'est un terrien
super coup droit, si son coup droit il partait comme ça toute l'année, je pense qu'il pourrait aller vraiment plus haut.
Exact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même un ADN de terrien. Donc, un mec comme ça, qui est en forme, qui est en chaleur et qui va jouer relâché, il va te faire un peu plus mal, tu vois. Mais ce n'est pas un Gojo qui est relâché. Un Golo qui est relâché, qui fait 1m96, 95 kg avec un gros service, il y a tout qui rentre. Et tu mets un peu la pression comme l'a fait McDo. Ben voilà, tu prends 3-7, quoi, tu vois. Donc, un Arthur relâché avec son service, sa qualité d'attaquant, bien sûr que ça peut prendre un set à Rublev.
Donc, affaire à suivre, en tout cas, on est d'accord sur le fait que c'est la Bonds qui a le plus de chances de rallier ses huitièmes de finale. Un mot sur Burel qui rejouera Sabalenka sur Pliskova en 2-7, quand même, qui a été finaliste ici même à l'US Open. Et comme en 2022, elle va retrouver la Biélorusse. Et ça avait été assez direct dans la dernière face-à-face. C'est sûr qu'elle n'avait mis que seulement 2 jeux. À voir si elle a progressé depuis. En tout cas, c'est que du bonus et c'est tout bénef pour elle. Un mot peut-être pour finir sur la défaite de Fils et de Droguet, respectivement contre Arnaldi et Mensic. Toi qui as suivi notamment les qualifications par rapport à Mensic, comment est-ce que tu décrirais un petit peu le jeu de leurs deux bourreaux, du coup d'Arnaldi et de Mensic, qui sont les pépites un petit peu de demain? On a vu un Arnaldi avec beaucoup moins de puissance qu'Arthur Fils, mais qui contre très bien qui varie énormément, qui a une petite main aussi, vraiment canaliser la puissance de son adversaire. Et Mencić, bon, on dit ça un peu de tous les joueurs tchèques, mais quand on le voit, on a l'impression de voir jouer un Tomáš Berdych. Enfin, c'est très propre. C'est vrai qu'on disait pareil de l'HK. Comment toi, tu qualifies un petit peu ces deux styles de joueurs par rapport aux analyses que tu as pu mener?
Bah, t'as dit l'essentiel. Voilà. Jakub Mencić, c'est solide. C'est l'école tchèque, quoi. Je pourrais en parler 10 minutes, mais quand tu as dit ça, tu as tout dit. Alors, l'école tchèque, en plus, moderne, quoi, parce que des mecs qui sortent aussitôt, j'ai pas en mémoire que ça arrive. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, c'est un mec qui apprend vite et qui a acquis une maturité. Voilà, imagine, je ne sais pas ce que ça aurait donné si Berdych avait été aussi fort, mais avec 3 ans d'avance, tu vois. Voilà, je me pose la question. Mais sur son style de jeu, c'est exactement ça. Et sur Arnaldi, c'est dommage, c'est vraiment. C'est chiant parce que c'est pas le mec contre qui tu as envie de perdre en 5-7, mais parce qu'il fait rien d'exceptionnel, il va pas créer. C'est un mec qui va. Il va t'embêter, il va remettre, il est là, il faut que tu ailles chercher le match. Et voilà. Et Arthur n'a pas réussi à le faire. Il y a bien sûr des petites conséquences physiques de son premier match. Mais voilà, donc beaucoup moins, beaucoup moins pimpant, tu vois, qu'un Mencić. Voilà, je préfère un drogué, enfin, on a quand même une variété en France. Après, c'est dur d'aimer des mecs à la Tchèque ou à la Arnaldi quand on a du Lestienne, du Manarino, du Moutet, du Gasquet. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte quand on est français. Tu vois, c'est, je sais pas ce que t'en penses, c'est difficile d'adorer des jeux comme ça, très très académiques à la Mencić, voilà. Même Runeux, tu vois, avec son coup droit, ça, voilà, ça m'embête, moi.
Et encore Holger, bon, c'est un autre débat, mais je trouve quand même qu'il est beaucoup plus créatif, même si c'est encore déstructuré et qu'il devrait un peu trouver un peu plus de cadre dans tout ça, mais il est capable de tout faire. Et c'est ça qui est aussi assez impressionnant, je trouve, chez Holger, par rapport aux autres, où, comme tu dis, c'est un peu plus académique, un peu moins sexy à voir, mais c'est pour autant efficace. Arthur Fils en a fait les frais, hein, justement. On a pu voir, et après, bon, physiquement, ça a été compliqué. D'autres qui ont fait les frais, c'est Tsitsipas et Casper Ruud. Donc l'un était finaliste, l'autre n'a jamais dépassé le troisième tour. C'est vrai que depuis cette saison, il y a quelque chose qui bloque. Tsitsipas, il a fait cette finale à l'Open d'Australie, mais depuis, c'est extrêmement compliqué. Il y a cette romance avec Badoza, il y a ce cadre familial un petit peu instable. Un coup, c'est Philippe Poussis, un coup, c'est Apostolos. On sent que voilà, ça manque un petit peu de focus sur le tennis. Focus sur les résultats, il y a un peu trop d'extra-tennis dans tout ça, plus toutes ces lacunes tennistiques avec son revers, sa relance que Dominic Stricker a très bien exploité. Et Casper Ruud, lui, il paie un peu le coup de cette intersaison, il a fait des exhibitions avec Rafa. Il y en a un qui est même plus sur le terrain et l'autre, ben, il joue mais il ne gagne pas. Et là, ça a été un match assez illisible contre Cheng. Je ne sais pas toi, quel est ton avis sur ces deux joueurs, si tu as un regard, une explication par rapport à leur performance.
Yes. Sur Casper Ruud, on est très alarmiste. Il faut pas trop en faire, pas trop faire de complot, je trouve. Oui, il est pas au top depuis quelques mois. Ça arrive. En fait, encore une fois, on a été habitué à une régularité de très très haute performance par le top 3, quoi. Donc voilà, enfin, pour moi vraiment il y a pas, alors je connais pas non plus en détail s'il y a des problèmes au niveau de l'entourage et tout. C'est un mec qui a l'air vraiment qui a l'air super bien, qui est super bien entouré, qui est stable. C'est pas la Badoza romance que t'y passe, quoi. Donc voilà, j'ai la sensation côté Casper que. Et là, il est dans une période où il aime un peu moins le tennis, tu vois. Quand il aborde Wimbledon, c'est du gazon et qu'il préfère un peu jouer au golf, tu vois. Bon, c'est des trucs de journaliste, hein. Mais voilà, même si tu n'aimes pas trop le gazon, putain, c'est Wimbledon, quoi, tu vois. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais tu rentres là-dedans, tu te dis waouh, ben, ne serait-ce que pour ça. Alors, il ne sous-estime pas le tournoi, ce n'est pas ce que je dis. mais j'ai l'impression qu'il est, il est un peu moins concerné, voilà, tout simplement, que peut-être qu'il y a un trop-plein de tennis là, ces derniers moments, ou quand tu fais autant de finales de grand chelem comme ça, tu vois, ça doit user, quoi. Peut-être que, voilà, c'est une hypothèse, tout simplement. Et côté Titi, putain, c'est... Quand il a, c'est dommage parce que avant de perdre, il la ramène sur son revers à une main où il rend hommage à Federer et à Sampras. Tu vois, il dit merde, putain, retiens-toi la prochaine fois parce que bon, parce que c'est exactement ça. L'autre en plus, il joue un gaucher offensif le lendemain, quoi. Tu vois, Stéphanos réfléchit un peu plus quoi, la prochaine fois. Mais ouais, je trouve que. Bah, parfois, exactement la même chose, il est un peu moins concerné, il y a sa lacune de revers, enfin, c'est vrai que niveau tennistique, il y a une espèce de, comment dire, de stagnation qui frustre un peu tout le monde, tu vois, et qui fout le bordel dans son clan. Ok, je dois garder mon père, je dois pas garder mon père, Philippe Houssis, pas Philippe Houssis, Badoza qui arrive avec sa mère, machin, on dirait qu'elles sont à Saint-Tropez avec leurs lunettes, elles regardent pas trop le match, tu dis... Putain, il y a une espèce de décalage avec en effet un box pro quoi, comme tu peux revoir sur Sinner, sur Djoko et des mecs comme ça. Après, je pense qu'il faut pas accabler personne parce qu'on n'est pas à leur place et que Titi passe, il va. Il faut qu'il ait une certaine, alors faut qu'il coupe le cordon avec son père, faut qu'il fasse évoluer son jeu qui a des limites surtout côté revers, il faut qu'il à un moment donné qu'il enlève un peu l'aspect passionnel en tout cas, ou alors qu'il se dise ok j'arrête un peu de temps, ou alors je prends le truc avec un peu de recul, mais voilà, vivre un amour passionnel c'est en général pas compatible avec un mec qui a ces ambitions-là, tu vois. Donc, je pense que le problème, c'est que pour l'instant, il voit flou et qu'il n'arrive pas à prendre du recul pour faire un discernement parce que ben, chaque semaine, il y a un tournoi et qu'il faut y retourner. Et en fait, tu n'as pas le temps de te poser. Voilà, un peu comme Garcia, quoi. Et pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire.
En plus, elle avait vraiment cette pression de « Ah, l'an dernier, j'ai bien performé en fin de saison. Il faut que je reperforme bien, sinon je vais pas tous mes points. » Donc là, il y a ce cercle vicieux, à l'inverse de Tsitsipas qui lui, il avait perdu contre Galan il y a un an. Bon, il s'en fichait, enfin, c'était que du bonus, l'US Open pour lui. Mais c'est vrai que bah, je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas s'il veut s'émanciper ou pas de cette autorité parentale, que derrière, il y a cet exutoire avec Badoza où il en fait un peu des caisses sur les réseaux sociaux, qui est vraiment de l'extra-tennis. Ok, voilà, l'amour, ça. Il y a plein de joueurs qui sont en couple, qui sont amoureux, ça ne joue pas pour autant sur leur performance. Mais là, ce qui est étrange, c'est de se dire que finalement, il n'est pas concentré sur les bons problèmes, de se dire, ok, soit il est dans la tête avec Badoza, soit la tête à gérer les conflits en interne avec ses parents et son coach Philippe Houssis qui l'a dégagé, mais pas sur ses objectifs, pas sur son tennis. Et c'est ça plutôt qui me pose problème, je pense. Et je ne sais pas si tu es en phase avec ça.
Ouais, parce que pour moi, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. Là, on dirait un gamin de 16-18 ans qui rencontre son premier amour. Voilà, je sais pas si tu as vécu ça. Moi, oui, je peux te dire que c'est très différent et que le tennis, t'en as un peu rien à foutre, quoi. Tu perds ton match, franchement, tu relativises en deux secondes, quoi. Alors qu'avant, quand t'es célibataire, tu perds ton match, tu dis putain. Je vais rentrer à pied avec un sac de pierre parce que vraiment il faut que je me punisse parce que j'ai fait de la merde et je revienne 10 fois plus fort. Là non, tu rentres chez toi, voilà, ta compagne et ça change beaucoup de choses. J'ai vécu à mon petit niveau hein, mais ça change beaucoup de choses et c'est pour ça que leurs relations sont hyper stables à Nadal, Federer, Djoko. Voilà, c'est pas là pour le coup, c'est du vrai amour, c'est pas de la passion, quoi.
Donc, à voir, voilà, si ça va se canaliser. On sait qu'il a un regain de forme généralement en fin de saison sur la saison en indoor, dû au fait aussi qu'il a eu des mauvaises performances avant, ce qui fait que il est un peu plus frais, un peu plus disposé à performer. À voir si ça se confirme. Et Casper Ruud, qui on est même pas sûr d'être qualifié pour le Masters, qui joue gros aussi. Qui pourrait perdre pas mal de points, mais je pense aussi que pour lui, cette saison doit se terminer. Enfin, la maille commencée, mauvaise préparation. Là, il a juste envie de boucler la boucle et de repartir sur de bonnes bases en début d'année 2024. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour lui, à voir ce qu'il lancera sur cette fin de saison. En tout cas, il y a des joueurs qui n'ont pas déçu. C'est les favoris. Bon, on peut en citer quatre, mais il y en a deux gros qui se dégagent, la personne de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Après, Medvedev et Yannick Sinner aussi qui ont fait leur chemin. Pour toi, bon, il y a eu deux matchs, hein, donc c'est difficile à juger, mais qui est le favori qui a le plus impressionné sur ce début de tournoi?
Yannick Sinner. Yannick Sinner, pour moi, c'est, comme tu dis, voilà, on parle un peu pour parler parce qu'ils n'ont pas encore été testés, ils sont tête de série très protégés, mais la façon dont Yannick Sinner a gagné, j'ai regardé une vidéo l'autre jour de Sinner qui joue contre Alcaraz à l'entraînement, il lui a mis 6-1. Voilà, bon, ça veut tout rien dire, mais franchement, Alcaraz, non, c'est pas le genre à lâcher à l'entraînement et à se dire, voilà, un peu à la Federer, tu vois, quand il s'entraînait. Non. Donc Sinner, il est en surconfiance.
Des quatre, c'est le seul qui n'a pas été breaké pour le moment dans le tournoi où il n'y a que deux matchs. Il a perdu juste 6 points, il me semble, ouais, 10 points sur son service contre Sonego. Donc franchement, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, il m'a fait forte impression pour le moment. Sans concentrer, il n'a pas un parcours si facile que ça. Hoffman, Sonego, Wawrinka, puis le match contre Zverev éventuellement. Et je l'ai trouvé vraiment concentré, à l'inverse de ce Sinner qu'on avait un peu à Wimbledon, où il savait qu'il avait un parcours facile. Et pourtant, il lâchait des sets par-ci, par-là. C'était beaucoup moins propre, beaucoup moins autoritaire. Donc j'ai l'impression que son titre à Toronto lui a fait du bien.
Ouais, il a pris une dimension, ça se sent. Dans sa façon d'aborder les matchs et de les gagner avec la manière. Premier Masters 1000. Non, il y a une sacrée évolution. L'évolution chez lui, la principale qu'on voit, c'est beaucoup plus de justesse dans son jeu, où avant il y avait beaucoup d'intensité, bien sûr, et de parpaing du fond du court. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus sensé. Un parpaing, quand il le met, c'est qu'il y a une raison de le mettre. Et tu sens que voilà, il a mis un peu d'eau dans son vin et qu'il a fait évoluer son jeu, ce qui lui a fait gagner quelques matchs et ce qui l'a fait évoluer mentalement. Donc, grosse méfiance. Alors après, ça ne veut rien dire, hein, tu vois. Tu vois Dimitrov qui galère contre Molchan et ici derrière, enfin, ça ne veut rien dire, les scores, enfin, il faut garder tout ça, toute proportion gardée. Mais en effet, le plus impressionnant pour l'instant, c'est lui. Parce que ce que fait Djoko, c'est également exceptionnel, mais c'est Djoko, on est habitué, quoi. Donc c'est moins impressionnant. Mais pour le coup, lui, c'est vrai qu'il va être en mode économie d'énergie pour arriver en finale super frais. Donc voilà, c'est presque normal. Medvedev, il lâche un set contre Connell, mais c'est la façon dont il lâche le set, où il sort mentalement de ce set. C'est Medvedev. De toute façon, il ne faut pas s'alarmer pour ça. Et puis, Carlito, moi, je veux qu'il galère, ce mec. Je veux qu'il galère avant d'arriver en finale pour justement... qu'il soit à son meilleur niveau en finale et qu'il se dise putain, j'ai passé 5 heures de plus sur le court que Djoko, j'étais à deux doigts de perdre, bon bah allez, la finale, si je fais déjà 4-7, c'est déjà cool, tu vois, et hop, on s'enlève toute la pression et puis derrière on connaît en finale ce qu'il est capable de faire, et on l'a vu à Wimbledon
et même à Cincinnati aussi,
exactement.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Djoko, j'ai pronostiqué pareil, on verra si c'est ça après Eagles, mais le Sinner Djokovic. Mais pour revenir sur Djoko, par rapport à ses premiers tours en majeur cette saison, je trouve que le résultat est plus impressionnant à l'US Open, parce qu'on se rappelle, bon, à l'Open d'Australie, il avait cette blessure un petit peu, donc il galérait, il perd un set contre Kwako. À Roland, c'est un peu compliqué aussi contre Fuksovic, contre Davidovic Fokina. À Wimbledon, pareil, il va souvent au tie-break contre Thompson, contre Kachin. Là, Zapata, je trouve qu'il a fait vraiment un excellent premier set. Je ne sais pas si tu as pu voir le match, et je trouve que l'Espagnol a vraiment très bien joué par rapport à son niveau moyen. Et Djokovic, pourtant, arrive parfaitement à le museler 6-4, 6-1, 6-1. On sent que lui aussi, il voit ce tableau qui se dégage, il sent qu'il a une opportunité, d'autant plus qu'il n'a pas cette pression d'avoir gagné Wimbledon et de se dire oh là là, c'est le grand chelem, c'est mon année ou jamais. Vraiment, ça lui a déchargé un petit peu de pression. Et je trouve que par rapport à ce qu'il montre et par rapport à ses standards des premiers tours de cette année, il est un petit peu au-dessus. Je ne sais pas si tu me suis sur ça.
Ouais, je te suis. Pour moi, ça s'explique parce qu'il sait que l'aspect physique est super, super important. Et je pense que dans les tournois d'avant, il avait moins cette petite pression. Alors, il faut toujours gagner tes premiers tours de manière la plus aisée possible, sans dépenser trop d'énergie. Mais là, sachant que ton ennemi, on est clair, hein, c'est Alcaraz en finale, que lui, il a 20 ans et que physiquement, c'est ce qui peut faire la diff, je pense qu'il joue, c'est une hypothèse, hein, mais quand je le vois jouer, là, c'est, je pense qu'il joue chaque point et chaque jeu encore plus que dans un Open d'Australie en début d'année, par exemple, tu vois. Parce que la condition humidité, les chaleurs, on ne sait pas ce qui peut se passer niveau météo. Là, il y a l'ouragan qui peut avoir des espèces de petites déperditions. Enfin, on ne sait pas. Et quand tu es pro, un vrai pro comme lui, tu anticipes le maximum de choses. Et le maximum de choses, c'est peut-être des conditions météo dégueulasses, difficiles dans les tours à venir. Un Alcaraz qui passe et qui passe sineur et qui arrive en finale, enfin tout ça, tu dois le prévoir et arriver au max de max en finale. Et pour moi, il aborde ses premiers tours avec beaucoup plus l'intention de gagner chaque point. Voilà.
On verra si c'est pareil contre Djere, parce qu'on sait que les matchs entre compatriotes, bon voilà, je ne sais pas s'il aura. Enfin, forcément, il mettra la même intensité, mais on sait que. Je ne serais pas étonné s'il venait à perdre un set, enfin, ou s'il y avait un score un peu plus serré, parce qu'on sait que voilà, ces matchs entre compatriotes, c'est toujours particulier. Je ne pense pas qu'il y aura de doudoune, en tout cas contre Djere. Je ne sais pas si tu es de mon avis ou pas sur ça.
Ouais, c'est marrant. Je me suis battu ce matin sur cette analyse parce que voilà, il y a Djoko en mode rouleau compresseur qui doit chaque minute gagner est une minute à prendre. Chaque minute, voilà. Et puis tu as Djere. Djere qui lui aussi a gagné ses deux premiers tours facilement et qui a pris également une très belle dimension. Et c'est un mec du fond du court qui reste planqué sur sa ligne et qui, voilà, un Djoko un peu moins fort, mais un peu plus puissant. Et pour moi, avec un gros, gros, gros physique. Je ne sais pas si tu te souviens, là, après la finale de d'Hambourg, où il perd contre Zverev, derrière, il enchaîne directement à Kitzbühel. Et à Kitzbühel, chaque tour, on se disait, putain, comment il fait le mec ? Il passe. Deuxième tour, putain, mais comment il fait le gars ? Troisième tour, nan. Et puis il perd à l'arraché contre Thiem, qui est soulevé par une foule de fous en Autriche, tu vois. Mais le mec, c'était des tournois sur terre battue en plein été. Hein, donc la caisse physique, il l'a. Alors, il a eu, souvent dans sa carrière, c'était un peu les crampes, le danger. On dirait qu'il a bien, bien réglé le problème. Et s'il part dans un combat comme ça et qui clutch, qui se sublime un minimum dans un set, en ayant une super couverture de terrain, en étant un bloc comme ça face à Djoko, qui est également un bloc, mais qui a un peu moins de puissance, encore une fois, ça peut faire un set accroché, voire un set géré. Donc, à la fois, je me dis, si ça avait été un grand chelem normal, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, où il n'y a pas cette condition météo, Alcaraz et tout, Djere aurait pris un set, je pense. Là, Djoko, il va serrer la vis encore plus. Et moi, je vois plutôt un set assez serré. Et derrière, ça déroule, entre guillemets.
7, 5, 6, 4, 6, 2, quoi, un truc comme ça.
Ouais, exactement.
C'est pas déconnant. Ça me choquerait pas non plus.
Mais ça ne me choquerait pas qu'il perde un set non plus, tu vois.
Pareil, parce que je mets dans la balance cette histoire de compatriote où on se rappelle Djokovic qui avait eu des très gros matchs contre Tsitsipas. Enfin, je mets un petit peu tout ça et je ne serais pas choqué. Après, peut-être qu'il va mettre 1-1 et 1, mais je ne serais pas choqué. Et c'est peut-être le match où il va le plus suer jusqu'à la finale. on ne sait pas, mais ouais. ça m'étonnerait pas.
Carrément. Et il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui s'est passé entre eux à Belgrade, où on était dans des conditions très spéciales, où Djoko revenait de la période Covid, où il avait besoin de temps de jeu, etc. Parce que je crois que Djéré avait eu des balles de match, ou en tout cas ouais, pas loin.
C'est ça. Et du coup, il a craqué sur son coup droit, qui, je pense, est son coup un petit peu plus faible, où il est un peu moins consistant. Il y avait eu ce coup droit qui craque, où à chaque fois, il avait craqué dessus, et c'est vrai que c'était un contexte totalement différent, sur une autre surface. C'était pas le même Djoko, c'était pas le même Djéré. Là, ce sera un nouveau match. Bon, il est en night session, donc ça, c'est bien pour les conditions, ça sera un petit peu moins chaud. Pour le Serbe. Donc Alcaraz, ça va être contre Evans. Donc là, a priori, pas de grands soucis. Voilà, pour lui, ça sera tranquille. Et Medvedev qui jouera contre l'homme en forme du moment, Sebastian Baez, qui est invaincu depuis sa défaite à Hambourg contre Casper Ruud. Question de série de 12 matchs de suite. Je suis assez impressionné de sa série. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu les résultats de l'Argentin.
J'adore, bien sûr. J'ai suivi, j'étais... Je regardais Kitzbühel, j'ai vu à peu près tous ses matchs. Pareil sur Winston Salem, je les ai analysés. Il y avait un grand coup à jouer hein, sur son premier tour contre Čurić. La cote était pas mal du tout, elle était à 2,50, de mémoire 2,35. Et c'est un mec, voilà, c'est encore une fois, quand dans la tête tout va. Laisse tomber. Le mec, après sa victoire à Kitzbühel, il a pris 2 semaines de vacances en Argentine.
il a fait une pause, il...
Ouais, mais il a dit qu'il était revenu de ses vacances. Alors, c'est des vacances hein, de mec en saison. Hein. Mais en fait, il faut, ceux qui ne connaissent pas la culture argentine ou latine en général, c'est de retrouver, les mecs sont en voyage toute l'année, et de retrouver comme ça le cocon familial. C'est super, super important pour des mecs d'Amérique du Sud qui ont souvent du mal à avec les déplacements loin, tu vois, l'Australie, l'Asie, parce que décalage horaire et parce que loin surtout de ces liens très, très forts qu'ils ont avec leur famille et leurs amis. Et voilà, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un petit peu injuste que beaucoup de tournois soient concentrés dans la zone un peu occidentale. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il est revenu. Avec une grosse confiance, avec la manière il gagne Winston Salem, avec la manière il gagne son premier tour contre Čurić, c'est pas facile de jouer un mec que tu viens de battre 3 jours avant, pas facile du tout. Il le fait, il perd aucun set. Derrière, il a un mec qui a rien à perdre également, qui abandonne, mais il doit tenir. Et bref, est-ce que le profil de joueur est bon contre Medvedev? Bien sûr que non. Dans l'absolu, si Medvedev est à son apogée, c'est pas du tout le bon match-up pour Sebastian Baez, quoi. Mais on a vu un Medvedev qui a perdu contre Demi-Nord.
Pour moi, c'est ça, Medvedev qui reste sur 2 défaites contre Demi-Nord, où en fait on a un joueur qui est capable de tenir du fond du court avec Medvedev, de le challenger. Et Medvedev, lui, il aime pas ça parce que il veut pousser ses adversaires à la faute, à les faire craquer. Sauf que là, en face, ben, logiquement, l'Argentin ne devrait pas donner trop de points. Sauf que après, ben, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'agressivité que tu vas mettre. Donc, toi, tu as de la puissance et tu as une arme offensive. Ce qui est le cas de Baez avec son coup droit, qui, je trouve, est vraiment un Schwartzman beaucoup plus puissant avec ce coup droit. Et monter au filet, comme a fait Demi-Nord, justement, pour le vaincre il y a quelques semaines. Donc, je pense, et je suis assez d'accord avec toi, Vincent, que Baez peut peut-être poser des problèmes à ce Medvedev qui... peut vite sortir de son match comme ça avec la caméra, le docteur, alors qu'il mène facilement contre O'Connell. Il sort de son match. Là, un mec qui va pas lui donner de faute, ça va un peu le faire chier. Il est capable de donner un jeu comme ça, comme il l'a fait contre O'Connell, où il se fait débreaker, d'autant plus qu'il y a ce gros problème des doubles fautes, des secondes de Medvedev. Baez, qui est pas un manchot à la relance, qui peut mettre le doute un petit peu chez le Russe. Je vois un gros combat, même si... sur la distance, je me dis que le Russe devrait passer. Je ne sais pas si c'était mon avis, Elie.
Ouais, tout à fait. Il me fait marrer, Vincent. mais c'est ça qui est. Il ne faut pas oublier que le tennis, qu'un match de tennis, il peut tout se passer, fait, vraiment. Hein, et que Baez, avec ce qu'il vient de faire, sera le premier à y croire. Il sera encore une fois totalement relâché. Et il a la puissance, comme tu l'as souligné, en coup droit, parce que contre Medvedev, ben, il faut un coup fort. Ça ne va pas être le service côté argentin, donc on aura le coup droit. Non, il peut tout se passer. Bien sûr, un Medvedev en forme, encore une fois, amènera Baez à la faute et gérera surtout beaucoup mieux le match et les temps forts avec son expérience et sa malice. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui peut un peu déranger Baez, c'est qu'au bout d'un moment, il va se dire que oula, il va peut-être comprendre que le match se joue aussi en dehors du court contre Medvedev. Et voilà, pour moi, c'est surtout son expérience sur ce genre de joueur et dans ce genre de conditions qui lui manque pour, d'une part, la gestion du match et d'autre part, tout ce qui se passe en dehors du court. C'est plus ça qui m'inquiète plutôt que la confrontation de jeu des deux, parce que Medvedev voilà, est un peu moins bien. Il va tout faire pour bousculer Baez de manière tennistique, de manière mentale et de lui foutre un grain dans la tête. Et Baez, ben, il est sur une bonne série, mais avant ça, sa saison n'était pas top, quoi, tu vois. Donc, tu n'es pas non plus sur une valeur sûre qui, voilà, c'est tout d'un coup, ouais, un petit truc, hop, mon service, ça me rappelle un truc en tournoi. Il y avait un pote, il disait, changeant de côté, il disait à l'adversaire, au fait, t'as un problème au bras, non? Parce que, tu sais, ton service, il est un peu bizarre, tu vois. Tu peux être sûr que derrière, le mec, il sert. Je fais l'analogie avec Medvedev qui fait ça, qui avait fait ça, le coup à Zverev à Monte Carlo, tu as vu le petit coup au filet, tout ça. Voilà, il va tout faire. Et j'adore ce mec, ça se sent peut-être. Donc voilà, j'irai pas sur un Baez vainqueur non plus, mais un truc accroché, minimum 4-7.
Je suis totalement en phase avec toi. Et du coup, bon, on a fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé sur ces deuxième tour et troisième tour. Pour finir, on en a parlé au début, donc tu es le fondateur d'une application Tennis Metrics qui permet vraiment d'affûter les analyses. Sur un match qu'on n'a pas évoqué, en 2-3 minutes, est-ce que tu vois une opportunité? C'est un peu la veine, l'ADN de Tennis Metrics, une opportunité sur ces matchs du troisième tour, donc qui n'ont pas encore eu lieu. Donc il y a le Paul Davidovich-Fokina qui est en cours, le Shelton Karatsev aussi. Et sur un match qu'on n'a pas évoqué, est-ce que tu vois une opportunité pour ceux qui parient ou qui veulent avoir un avant-goût de ce que propose Tennis Metrics? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quelle affiche tu choisirais?
Alors, c'est une excellente question. Je suis en train de regarder. Alors, sur un match qu'on n'a pas évoqué, donc on les a un peu tous évoqués ce soir. Demain, il y a du Zverev, Dimitrov, Arnaldi, Nori, Rinderknecht, Rublev, Vavri, on l'a évoqué.
Baez, Medvedev. Après, si tu veux te positionner sur le Goyo-Vezli,
tu dis nos cases. Non, mais alors le pari sportif, ceux qui connaissent, c'est une question de probabilité. Hein. Gojo est à 1,30 de mémoire, donc il y a pas grand chose. Ijikata qui bat Zhang, c'est pas bête, mais il y a tellement d'inconnus sur la régularité au sein d'un match de Zhang. Que, encore une fois, il faut y mettre un petit delta pour amoindrir ce risque, quoi, tu vois. Donc, c'est pas un match sur lequel j'irai. Non, on a, sur les matchs qu'on a analysé pour ce soir, on a deux values, donc deux, c'est-à-dire deux cotes qu'on voit mal ajustées chez les bookmakers. C'était Bonzi, bien sûr, on en a parlé. Et l'autre, c'était, je crois, Manarino, sans vouloir faire de... Ouais, c'était Manarino, pour qu'il embête un Tiafo, et donc un nombre de jeux était assez pertinent selon la cote. Donc, ce qu'on fait, en gros, pour ceux qui m'écoutent, c'est on donne le maximum d'indicateurs pour que vous ayez toutes les informations nécessaires, à la fois exhaustives et à la fois en temps imparti, pour que vous puissiez faire vous-même votre raisonnement et aboutir à une conclusion. Donc, c'est vraiment, c'est comme un trader, c'est-à-dire qu'avant qu'il puisse investir dans prendre la décision d'acheter une action ou pas, il a besoin de tout un tas d'informations, qu'elles soient détaillées, qu'elles soient complètes et qu'elles arrivent à temps. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire donc tous les jours avec tous les matchs ATP. Et derrière, donc les indicateurs, c'est les statistiques, c'est une analyse humaine, c'est un algorithme qui calcule une probabilité de victoire et c'est la courbe d'évolution des cotes qui montre bien sûr la tendance des parieurs. Dernière petite anecdote, c'est sur le match Paul Davidovic où il y a eu un... au dernier moment, la cote de Davidovic a monté de 0,2. Donc, on peut se demander si en fin de marché, elle devient value. Et puis, tu en as eu un autre, alors je ne sais plus lequel, où tu as carrément deux cotes qui se sont croisées. Je ne sais plus quel match. Non, je ne sais plus, je ne vais pas faire perdre trop de temps. Donc, voilà ce qu'on fait. Et encore une fois, comme dit très bien Conce, pari responsable, nous, ce qu'on aimerait donner, c'est la passion de ce sport et le sentiment jouissif qu'un raisonnement puisse être bon ou pas. Voilà.
C'est clair. Donc, on vous invite à aller voir Tennis Metrics, tous les liens en description, je l'ai mis dans le chat. Vous téléchargez l'application, c'est gratuit, vous faites un avis vous-même. Hein. Vous voyez sur 2-3 matchs les analyses, si ça vous paraît courir en ou non, et après, ben, vous faites confiance ou pas. En tout cas, c'est très bon d'avoir des analyses pour pouvoir se confronter un petit peu et se dire « Ah là, je suis plutôt dans le vrai » ou « Là, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à cet indicateur. » Ils ont bien fait de le mettre en avant. Donc, c'est vraiment top et on aime ce travail de passionné. Et sachant qu'on est animé par la même passion, la petite balle jaune. Donc ça, c'est vraiment top. On a été bon, moins d'une heure, on a pu balayer tous les sujets. Un grand merci à toi, Ali. On espère pouvoir te voir dans un prochain live. Pour pouvoir parler un petit peu de cette US Open. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va aller voir la fin de ce Tommy Paul à Davidovic Fokina qui est revenu à 2-7 à 1. Très bon week-end tennistique, sachant qu'il y a pas mal de belles choses qui vont avoir lieu, des beaux matchs à surveiller. Et nous, on se retrouve à la fin du troisième tour dimanche soir pour débriefer de tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.
Yes, salut tout le monde. Ciao, merci.